ensemble autour de ta personne sainte, mais être aussi ensemble autour de ta parole. Cette parole que tu nous as donnée, qui est pour nous source d'encouragement, source d'instruction. Comme le dit l'apôtre Paul, toute écriture est inspirée pour convaincre, pour éduquer, pour instruire, afin que l'homme et la femme de Dieu soient aptes à toute œuvre bonne. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Merci pour notre frère Guy, merci pour le temps qu'il a pris pour réfléchir à ta parole et aussi réfléchir à la manière dont nous la communiquer. Seigneur, nous voulons le bénir en ton nom, te demander de lui accorder encore une double onction pour que ta parole sortant de sa bouche soit réellement parole de Dieu, pour que chacun de nous puisse puiser en celle-ci ce dont il a besoin pour grandir, pour continuer la marche. Seigneur, nous avons chanté combien ton amour était grand, immense, merveilleux. Nous voulons aussi te dire que nous voulons apprendre à t'aimer davantage, de plus en plus. Et plus nous écoutons ta parole, et bien plus nous avons envie de t'aimer. Seigneur, viens à notre secours. Nous voulons dire aussi, quand Samuel parle, et bien ton serviteur, ta servante, écoute. Instruis-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alors j'ai un petit, alors pour les plus jeunes de l'Assemblée, à l'inverse, les plus anciens, j'ai un petit bonjour particulier à vous transmettre ce matin. L'Éternel, il est extraordinaire, il donne des rendez-vous bizarres, quoi. Hier après-midi, mon épouse et moi-même, ainsi que notre fille Émilie, rien n'était prévu, nous avons pris une tasse de thé chez Simon Brake, sa femme et ses enfants. Bon, Simon a une place particulière un peu dans mon cœur, hein, on l'a connu, il a le même âge que notre fille Émilie, ils ont fait à peu près les mêmes bêtises quand ils avaient 15-16 ans, c'est là qu'ils ont commencé à se connaître, en faisant les camps de la colonie d'Uzège avec Pierre Barito, tout ça, voilà quoi. Et puis bon, vous connaissez tous les aventures des uns et des autres, voilà. Donc Simon était très content de me voir, et je voulais vous dire que il ne faut pas cesser de penser à ces personnes. Vous voyez, par exemple, j'ai eu un épisode de ma vie où j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, notamment beaucoup aux États-Unis. Et il y a eu une période de sa vie où Simon s'est retrouvé en Angleterre et aux États-Unis, à New York. Il avait été rappelé pour refaire des monuments de la ferronnerie d'art et tout. C'est un artiste extraordinaire. Et donc, j'avais organisé, à l'occasion d'un long déplacement aux États-Unis, un tout petit moment dans mon planning, une demi-heure, où je suis allé le voir, et je l'ai rencontré, Simon, là-bas. Et là, aujourd'hui, il m'a dit, je me souviens trop quand tu es venu me voir et tout. Simplement le fait de se dire, tiens, il a pensé à moi, il est venu me voir 5 minutes et tout. Et là, le cordon est rattaché, est relié. Et pour la toute petite histoire, je suis un grand bavard, il habite à Brouzet-les-Alès. Et j'ai de la belle famille un peu éloignée qui habite à côté, à Navacelles. Et la personne qui est là-bas, à Navacelles, peut-être il y en a qui la connaissent, c'est Diane Chazel. Hein, vous la connaissez? Bon, elle est un peu en charge pas mal de la paroisse, de tout là-bas sur place. Et le temple, là-bas, ils ont la chance d'avoir des temples qui sont vides, mais ils ont des temples. Et le temple de Brouzet, il y avait un énorme problème, ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte. Et c'est une ancienne porte majestueuse avec une clé, j'explique pas, la clé elle fait au moins 2 kilos, vous voyez, en fer forgé, tout ça. Et donc elle s'est adressée à Simon, et c'est Simon qui a refait la clé du temple de Brouzet-les-Alès. C'est aussi un peu un clin d'œil, et c'est sûr qu'on prie pour son cœur, voilà, si Dieu a permis peut-être qu'on se reconnecte, voilà, ils vont bien nous voir cet été. Donc, ne perdons pas, ne nous décourageons. C'était vraiment pour moi un encouragement, quoi. C'était pas du tout prévu. Voilà. Alors cette fin d'année, c'est souvent l'occasion, il y a des messages un peu qui sont contextuels, on va dire ça comme ça, il y a Noël, et puis là, la fin de l'année, c'est souvent l'occasion de faire des
bilans.
Ah bon, voilà quoi. Rétrospective, bilan, perspective, toutes ces choses-là. Alors, je vais, comme support, le texte, c'est dans Philippiens 3, les versets 12 à 21. C'est pour ça. c'est moi qui avais transmis, qui avais fait une bêtise. Voilà. Le 13. Voilà. Ça y est ? Parfait. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est Paul, bien sûr, qui parle, c'est pas moi. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. S'il y a quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est ça ce matin. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, on est tous mûrs dans cette assemblée, ça va ? On est tous, voilà. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette aptitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction, et entre parenthèses, et vivons en plein accord. Je n'ai pas voulu les gommer, hein, quelques 17 et 18, quelques versets d'avertissement. Soyez mes imitateurs, frères et sœurs, portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition, ils ont pour Dieu le ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est, non pas sur la place d'Uzès, la place aux herbes, mais elle est dans le ciel. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère. Qui est-ce qui a un corps de misère ce matin ? Plus on avance, n'est-ce pas ? Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Voilà un peu ce matin, donc on va regarder un petit peu en arrière, on fait un état des lieux. Je ne vais pas m'apesantir sur les avertissements parce que je pense que dans cette salle, il n'y a que des sœurs et des frères mûrs qui ont besoin d'être encouragés, n'est-ce pas ? Voilà. Un moment spécial de transition. Alors que nous arrivons, oui, c'est le dernier dimanche de l'année, il me semble, hein, donc c'est bien ça. C'est bien sûr un moment idéal pour regarder en arrière avec gratitude, mais aussi pour se projeter dans l'avenir avec espérance. Et en quoi on espère ? Eh ben, on l'a vu, hein, ces derniers versets, la transformation de nos corps. Le passage de Paul aux Philippiens nous invite à un exercice spirituel essentiel. C'est important, souvent on ne pense pas s'arrêter, moi le premier, et puis... peut-être prendre un papier, un crayon, et puis d'écrire un peu, se poser quelques questions. Nous sommes encouragés à oublier ce qui est en arrière, à tendre vers ce qui est en avant, et de courir vers le but. Oublier ce qui est derrière, tendre vers ce qui est devant, et courir, même si c'est avec une béquille, même si on a un genou boiteux, il faut avancer. Ces trois actions sont et doivent être le pilier de nos vies. La marche chrétienne, on en parle beaucoup, la parole de Dieu en parle, c'est pas quelque chose de statique, entre guillemets, vous le savez tous. C'est l'occasion parfaite pour remercier Dieu pour ses bontés, renouveler notre foi en ses promesses pour l'avenir. Alors, vous n'allez pas répondre ce matin, mais... rentrez chez vous, prenez un papier, un crayon. Quelle conclusion pour cette année passée dans ma relation avec mon Dieu ? Qu'est-ce que je peux écrire par rapport à l'année N-E et ainsi de suite ? Est-ce que j'ai avancé ? Est-ce que j'ai reculé ? Voilà, il faut noter un petit peu tout ça. La vie chrétienne d'enfant de Dieu se vit au quotidien et elle a un sens à la fois géographique et à la fois un sens spirituel. Et puis, bien sûr, après avoir fait le bilan, comment souhaitons-nous commencer cette nouvelle année, toujours dans le cadre de notre, de ma relation avec mon Dieu ? Reconnaître les bontés de Dieu, je pense que c'est ce à quoi nous sommes exhortés. Hein. Vous connaissez tous le psaume 103, les versets 2 à 5, qui dit « Et mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». La parole de Dieu nous encourage à surtout ne pas oublier ce que Dieu fait et a fait pour nous. Prenons un instant pour réfléchir quel moment marquant dans l'année nous avons vécu où la manifestation de la fidélité de Dieu s'est imposée à nous, ou un miracle, ou peu importe, quelque chose où on a su discerner la main de l'Éternel qui est intervenue. Donc, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peut-être est-il intervenu dans un fait matériel dans ma vie. Souvent, il intervient en dernier moment, quand on ne s'y attend pas. Il est là, on voit sa main puissante. Notre cœur humain impatient dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a rien qui se passe et tout. Et souvent, quand il y a à la fin, on dit, hop, la main de l'Éternel est intervenue. Peut-être nous a-t-il soutenu dans des moments de douleur, d'incertitude. C'est vrai que ce sont des contextes très souvent où on fait appel à notre Seigneur. Peut-être quand on est dans la joie, quand tout va bien, quand tout roule, on n'a pas trop tendance à penser à lui. Par contre, c'est un peu dans les difficultés qu'on va se tourner vers lui. Peut-être a-t-il renouvelé notre foi, répondu à nos prières. C'est intéressant de se rappeler les bonnes choses positives, les bontés de l'Éternel, ce qu'il a fait pour nous. Simplement pour le remercier et aussi pour nous encourager, pour comprendre que c'est un Dieu puissant, extraordinaire, merveilleux, et qui agit malgré nos difficultés. Alors un tout petit clin d'œil, je crois que dimanche prochain, vous allez avoir un culte de témoignages, un peu de choses comme ça, donc c'est peut-être intéressant de mettre à profit cette semaine pour faire une liste personnelle, donc des bénédictions dans l'année écoulée, et de rendre grâce à Dieu, hein, que ça peut se faire dans la prière, par un chant d'adoration, un témoignage ou quoi que ce soit. Rappelons-nous ce que Dieu a fait dans nos vies, parce qu'il nous a donné la sienne, nous lui consacrons notre vie au quotidien, donc il faut se rappeler. Alors, numéro 2, laisser derrière ce qui est en arrière. Le verset 13 nous dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant ce qui est devant. » Pourquoi ne faut-il pas vivre dans le passé ? Paul parle d'oublier le passé, ce qui est en arrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut gommer notre mémoire, hein, nous faire un électrochoc pour tout gommer. Ça veut tout simplement dire qu'il faut pas vivre dans le passé. C'est ma maman qui est maintenant décédée, qui n'était pas au Seigneur. Et cette personne était 250% focalisée sur « c'était mieux avant ». Tout le temps. Il n'y avait rien d'autre qui était capable de l'accrocher. Maman a fini, elle était dans un EHPAD, en région lyonnaise, chrétien. Maman n'était pas chrétienne. Et une fois, j'avais discuté avec la psychologue de la maison, qui n'était pas chrétienne. Je lui dis, mais comment ça se fait? J'essaye de parler un petit peu, c'est pas facile, hein, vous savez, de parler à ses parents. Je lui dis, comment ça se fait que même en parlant d'espoir, pourquoi elle ne regarde pas un peu devant? Et puis elle m'a dit, mais votre maman, elle est psychologiquement complètement enfermée dans son passé. Elle n'arrive même pas à vivre le temps présent. Comment voulez-vous qu'elle puisse espérer regarder l'avenir? Ce n'était que, ça veut dire tout simplement, c'est dangereux de s'enfermer au quotidien dans des contextes, même si ça a été difficile, même s'il y a eu des combats, il faut avancer là-dedans parce que c'est piégeux. Le passé, vivre dans le passé, c'est piégeux. Et en tout cas, c'est pas ce que nous demande Paul. Paul, par Dieu, par l'intermédiaire de Paul, nous demande de ne pas vivre dans le passé et d'oublier ce qui est en arrière. Les échecs passés, ils ne doivent pas définir notre avenir. Dieu nous appelle à nous relever, Proverbe 24, 16. En effet, sept fois le juste tombe, mais il se relève. On est appelé chaque fois, en son temps, quand c'est le moment, à se relever. Il y a de bonnes choses, heureusement, à se rappeler dans le passé. Mais ça peut être aussi dangereuse, les réussites passées. J'ai eu une vie professionnelle extraordinaire, j'ai eu un ministère merveilleux, voilà quoi, c'est bon. Je prends une chaise, un bon fauteuil et je m'arrête. Donc ceci aussi peut être dangereux. L'Éternel nous demande de regarder le passé, les choses positives, en le remerciant pour ses bontés, mais surtout en ne pas s'asseoir d'une manière confortable sur nos réussites. Une illustration imagée, mais ô combien importante, dans la parole de Dieu, dans Genèse 19, qui nous rappelle qu'il ne faut pas regarder tout le temps dans le passé, c'est l'épouse de Lot, bien sûr, hein, qui, en regardant en arrière, est devenue une statue de sel. Bien sûr que c'est une image, mais quand même, la parole de Dieu nous parle, pas se focaliser sur le passé. Alors, d'une manière pratique, toujours sur cette même feuille de papier, essayons d'identifier les choses que je devrais laisser en arrière. Je sais ce que je dois laisser en arrière. Tu sais ce que tu dois laisser en arrière. Les blessures émotionnelles, les péchés récurrents, il faut les confesser à Dieu. On le sait que dans 1 Jean 1,9, la parole de Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés si on s'adresse à lui et si on les lui confesse. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Écrivons aussi les regrets qui nous pèsent lourdement. Et par une prière sincère dans le secret de votre chambre ou avec quelqu'un avec qui vous êtes intime dans la foi, demandez à Dieu de vous libérer de tout ce qui vous retient. Vous savez, c'est un peu j'ai été tout petit élevé à la campagne. Et à la campagne, souvent les vaches, elles étaient en liberté. Il n'y avait pas de barrière, beaucoup moins. Et puis il y avait quelqu'un qui les gardait. Et pour empêcher celle qui était la chef du troupeau de partir en courant, on lui mettait une chaîne et on lui mettait un bâton au bout de cette chaîne. Elle pouvait marcher tranquillement, mais elle ne pouvait pas partir, elle ne pouvait pas courir. Et souvent, nos péchés, toutes les choses, nos regrets, c'est un peu comme ce bâton-là qui nous empêche, je vous ai donné cette image, qui m'empêche d'avancer et de regarder le but vers lequel l'Éternel nous appelle. Voilà. Voilà pour le passé. Avancer avec espérance et fixer ses yeux sur le Christ. Philippiens 3, 14. Maître, je le dis souvent pour moi-même, regardez les autres, regardez le monde, regardez ma vie à travers le regard de Christ et en le regardant. Regardez mon frère et ma sœur en mettant les lunettes de myope, mais en mettant les lunettes du Seigneur. C'est une bonne, un bon moyen mnémotechnique de se rappeler, surtout quand il y a des combats, des difficultés. Comment le Seigneur réagirait dans cette situation ? Avoir une vision claire. Comme Paul, nous sommes appelés à courir vers le but. Et le but, c'est la vie éternelle, frères et sœurs. Je le redis encore une fois, il y en a qui ont déjà passé ce cap. Moi, je passe la version 7.0 l'année prochaine, 70. J'ai dit à mes enfants, en rigolant, mais pas vraiment en rigolant, j'aurais dit, vous savez, statistiquement, mathématiquement, les mecs, hein, en gros, 10-15 ans, et puis voilà, quoi, l'affaire est faite, statistiquement parlant. C'est aussi le moment de se dire qu'est-ce que j'ai fait en avant et puis devant, est-ce que je m'arrête, je suis bien, j'ai une belle maison en Ardèche, je ne fous rien, je suis tranquille, je me mets les hop au soleil et je fais rien. Qu'est-ce que l'Éternel me demande de faire? Chercher la volonté de Dieu, c'est toujours très compliqué. Mais par contre, ce qu'il y a d'hyper simple à faire, c'est de se mettre à sa disposition. Je trouve que c'est plus simple, parce que des dispositions, on se met à sa disposition et l'Éternel, il va nous employer. Alors nous sommes appelés à courir. Le but, c'est donc la vie éternelle, mais aussi la réalisation de l'appel de Dieu sur cette terre. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Jérémie 29, 11. En effet, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On doit toujours rester en mouvement. Demander à nos amis Keith et Karen ce qui s'est passé dans les 2 ou 3 ans en arrière, où ils étaient, où ils sont maintenant. Et c'est pourquoi? Parce que simplement, on se met à la disposition du Seigneur, avant tout. Donc Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi l'espérance est essentielle? L'espérance est essentielle parce qu'elle nous tient debout au quotidien. Elle nous tient debout. Vous avez de l'expérience ici dans cette salle. Il y en a qui ont vécu des épreuves longues, des combats extrêmement difficiles. Mais pourtant, cette espérance les a aidés à ne pas tomber et à rester debout. L'espérance n'est pas une promesse d'avoir une belle autoroute, bien lisse, sans nid de poule, ni quoi que ce soit. Par contre, l'espérance d'avoir cette vie éternelle, la certitude d'avoir le Christ à côté de nous, son Esprit Saint qui habite en nous au quotidien. C'est cette chose-là qu'il faut serrer et bien fort dans nos cœurs en ce début d'année. Hein, et non pas de dire, je vais perdre 5 kilos d'ici là. Si, bien sûr qu'il faut le faire, je plaisante, mais quand même. Souvent, on prend soin de notre carcasse physique. On est prompt à aller chez le médecin, d'aller faire des visites, des check-up. C'est la même chose pour notre vie spirituelle. C'est la même chose. On a besoin de s'arrêter, de faire le point, de remercier l'Éternel, de dire « Voilà où j'en suis, Seigneur, et aide-moi, qu'est-ce que je vais faire ?» Les années qui sont devant moi, qu'est-ce que je peux faire à ton service ? Alors, un joli verset à propos de l'espérance. J'ai perdu la référence, justement. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons, vous savez, comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Alors, j'espère que vous savez tous de quel voile, ce dont il s'agit, n'est-ce pas, hein? C'est ce voile qui a été déchiré le moment venu. Ça veut dire que notre ancre, elle est déjà accrochée là-haut. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Ça veut dire que l'espérance extraordinaire, c'est pas du vent, c'est pas de la philosophie, notre Dieu, Jésus-Christ est mort sur la croix, on l'a dit tout à l'heure, il est ressuscité, il a été enlevé, le voile s'est déchiré, il est assis à la droite du Père, il est fidèle et juste pour nous pardonner, il intercède pour moi, pour toi, auprès du Père au quotidien, et lui, il est déjà là-haut. Et nous avons cette espérance extraordinaire qu'un jour, nos yeux le verront et nous serons dans sa glorieuse présence. Et ces choses-là ont permis et nous permettent d'avancer, quelles que soient les circonstances. Prenez tous les héros extraordinaires qui sont dans la parole de Dieu. Généralement, ils n'ont pas bien fini, hein, tranquillement au fond de leur lit. Et pourtant, ils sont allés jusqu'au bout parce qu'ils avaient cette assurance qu'après, au-delà, ils seraient avec leur sauveur. Alors peut-être des questions qu'il faut se poser, questions de réflexion. Quels sont les objectifs que je vais me... ou quels sont les souhaits, si vous n'avez pas le mot objectif, spirituel, que je souhaite me fixer pour l'année à venir. C'est tout bête ce que je vais vous dire, mais bon, il faut l'écrire. Il paraît qu'écrire, ça rentre un peu mieux dans la tête, hein, disent les professeurs. Ou ça fixe, voilà, d'écrire, ça fixe. Grandir dans la prière, point d'interrogation. C'est mon combat. Être plus fidèle dans le service de Dieu. Partager l'évangile un peu plus autour de moi. Trois petits points. Et puis je vous laisse. Vous avez une grande feuille blanche pour écrire. Courir avec persévérance. Hébreux 12. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et mène à la perfection. La course chrétienne. Paul compare la vie chrétienne à une course, vous le savez aussi bien que moi. Je ne suis pas du tout sportif, je vous rassure, mais j'ai une fille qui est ultra sportive. Ça nécessite de la discipline. Avoir de la discipline, ça veut dire qu'il faut être constant. Et même quand il faut perdre quelques kilos ou quand il faut faire baisser son taux de sucre, il ne s'agit pas de faire un marathon une fois par mois. Il faut faire de l'exercice d'une manière constante et régulière. Et c'est la même chose pour notre vie. Ce n'est pas la peine d'aller faire une retraite spirituelle pendant 3 jours, une fois par an, en se disant « j'ai rechargé mes piles ». Non. On a besoin tous les jours, comme je respire, de me respirer, de m'imprégner de ce que veut dire de développer cette relation personnelle avec notre Dieu. Donc avoir de la discipline, désolé, constant dans la prière, l'étude, dans la parole de Dieu, dans l'adoration, ça aussi c'est quelque chose dont on parle peu. Ce matin, je venais en voiture depuis... c'est pas loin, il y a 50 km, quoi. Et j'ai juste vu un peu le lever de soleil, là, qui est en ce moment, avec les dégradés de couleurs, le ciel bleu, les choses comme ça. Moi, c'est des choses qui me portent à l'adoration. Quand on ne peut qu'admirer la création de l'Éternel, des choses toutes simples, vous vous promenez dans les bois, dans les forêts, j'ai Serge devant moi, vous ramassez des champignons ou des choses comme ça. Voilà des sujets simples d'adoration, dire quel Dieu merveilleux tu es, extraordinaire, c'est toi. Alors que nos scientifiques, ils se cassent la tête à se dire, oh là 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 là, ça a évolué et tout, hein, les éléphants, ils ont une trompe après des millions d'années. Mais qu'est-ce qu'ils avaient comment ça marchait quand ils n'avaient pas de trompe? Enfin voilà, quoi. Il faut avoir des yeux d'enfant, des yeux d'admiration, d'adoration. Nous sommes appelés simplement à rester dans la paix et adorer notre Dieu. De la persévérance, on l'a vu. Les défis vont arriver, mais il ne faut pas abandonner. Toujours avoir ce verset, la vision claire, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et mène à la perfection. Comme je vais mal dire, quand on fait visiter nos églises évangéliques, vous voyez, il y a une croix extraordinaire qui nous montre le sacrifice de Christ. Mais nous, il n'est plus là, il est parti, il est ressuscité, il s'est envolé. Voilà la réalité. Réjouissons-nous. Illustration de la persévérance, on l'a tous vu, un athlète olympique qui s'entraîne pendant des années pour quelquefois quelques minutes de compétition. Ceux qui font le 100 mètres pour les Jeux olympiques, ça n'aura lieu que dans 4 ans. Bossent comme des fous. Mais nous, nos Jeux olympiques, ils sont derrière le voile avec Jésus qui nous attend. De même, notre course exige des sacrifices, mais le prix, il est éternel. application pratique, déterminer une habitude spirituelle. Il faut prendre des bonnes habitudes qu'on souhaite renforcer pour l'année qui vient. Engageons-nous à persévérer, même si c'est difficile. Alors, je le dis, bien que je sois souvent un peu méfiant dans tout ce qui est un peu mentorat, coaching et tout ça, quoi. Mais si vous avez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, homme avec un homme, femme avec une femme, et puis vous pouvez faire des mini-groupes de croissance, vous pouvez demander à votre pasteur qui vous aide un peu, parce que moi, quand il faut que j'aille marcher à pied ou que je fasse 10 km à vélo, si j'ai quelqu'un qui frappe à ma porte et qui me dit où j'ai rendez-vous avec un tel pour aller faire mon truc à vélo, ben j'y vais, quoi. Alors que si je suis tout seul, vous la connaissez, la petite voix là derrière qui vous dit une autre fois, hein? On se donne des... Allez, cette semaine, on va lire Matthieu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Après, on se revoit. C'est pas la peine de passer des heures à partager là-dessus. Mais en attendant, vous avez lu vos 4 ou 5 ou 6 versets. Des choses comme ça. C'est des choses simples, mais qu'il faut essayer de se mettre en place. Il faut s'engager à persévérer, même si c'est difficile. Conclusion. Un appel à la confiance et à l'engagement. Je ne reviens pas sur le passé. Le passé est passé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des souvenirs, hein, mais le passé, il est passé. Un appel à la confiance et l'engagement. Courir vers le but. Paul termine ce passage en insistant sur l'importance de courir vers le but. Je suis conscient qu'il y a des circonstances où c'est très compliqué. Mais je me souviens à Lyon d'une mamie qui avait des difficultés, qui n'était pas loin du fin de sa vie, qui n'y voyait plus grand-chose, qui était handicapée comme c'est pas permis. Elle avait une liste de l'église et elle passait quasiment ses journées à prier pour les uns ou pour les autres. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Alors c'est une course personnelle, chaque croyant a une course spécifique à courir, ne nous comparons pas aux autres. On peut regarder un autre, un tel ou une telle, comme exemple ou des choses comme ça, mais on a un cœur, l'Éternel nous connaît, on a un chemin et arrêtons de nous comparer aux autres. Peut-être comparez-vous à Jésus-Christ, en n'ayant pas trop les chevilles qui gonflent, mais quand même. Voilà. Ne vous comparez pas aux autres, mais concentrons-nous sur ce que Dieu nous appelle, ce que Dieu m'appelle à faire, tout simplement. Je me mets à sa disposition, et voilà. Hébreux 12, 1, 2, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance avec l'épreuve qui nous est proposée, les regards fixés sur Jésus. » Timothée 4, 7, 8 nous dit, Paul, à la fin de sa vie, déclare après avoir achevé sa course et espère recevoir la couronne de justice. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Un jour, notre Dieu prendra une couronne et me la donnera, pour une vie, c'est assez difficile de l'expliquer, mais l'éternité, passer l'éternité, à louer le Seigneur, alors on connaît tous cette blague. Les enfants disent, oh là, ben, si c'est ça le salut, c'est pas très intéressant. Si c'est un culte qui va être éternel, déjà que pendant 2 heures, c'est long. Je pense que l'Éternel, il a des choses merveilleuses, extraordinaires, en réserve pour ses enfants. Vous ne croyez pas qu'il n'est pas capable d'avoir imaginé des choses fantastiques pour nous. Pour enfin, son plan va être réalisé, c'est-à-dire il va avoir un peuple d'adorateurs à 100% qu'il s'est choisi. C'est ça la réalité de la vie éternelle avec Dieu. Nous sommes là un peuple, il y a eu Abraham, Israël, après le salut ouvert à tous, malheureusement tous n'y vont pas aller, mais par contre, dans l'éternité, nous serons, il y aura, j'allais dire, 200% d'adorateurs autour de notre Dieu. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus rien du tout, ce sera vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est ce qu'il faut regarder et ce qui va nous encourager à pouvoir avancer et vous encourager. Je m'arrête et je vais prier. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Seigneur, je veux te redire aussi dans mon cas personnel, pourquoi moi, Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi as-tu choisi mes frères et mes sœurs, Seigneur, pour faire de toi tes enfants, Seigneur, et puis pour faire de toi des adorateurs, Seigneur, un peuple qui passera l'éternité en ta présence. Seigneur, on ne comprend pas tout, mais nous voulons te dire ce matin ô combien nous t'adorons. Nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions que tu as pu faire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te redire aussi que tu es ce Dieu qui donne ce baume apaisant dans les cœurs. C'est ce Dieu qui est capable d'apporter la paix, quelles que soient les situations, les difficultés. On a tellement de témoignages d'enfants de Dieu qui ont vécu des souffrances et qui peuvent parler de toi avec amour et fidélité. Seigneur, en cette fin d'année, nous voulons te dire que nous nous mettons encore à ta disposition. Utilise-nous, Seigneur, avec nos faibles bras. Utilise l'Esprit Saint que tu as déposé dans nos cœurs, Seigneur, parce que tu vis en nous. Et permets-nous d'avancer simplement dans la paix en nous mettant à ta disposition. Seigneur, sois encore vraiment béni dans le bon nom de ton Fils Jésus. Amen. Et soyez bénis. Je m'arrête.